Bac FM sur Facebook et Instagram pour nous suivre effectivement. Vous êtes dans Action, il est 10h30, on est parti pour votre rendez-vous ciné, c'est tous les mercredis chaque semaine.
Silence. Moteur.
Allons-y.
Le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs.
Vas-y Jean-Pierre.
Moteur. Et action.
Bienvenue dans Action, mettez-vous au chaud, il fait froid dehors, on va se renfermer dans les salles de cinéma, sur les sièges rouges, dans les salles obscures du cinéma pour parler des films qui sortent cette semaine. Bien sûr, ça c'est au programme, il y a trois jolis films, il y a beaucoup d'avant-premières aussi qui arrivent au ciné Mazarin jusqu'à mercredi prochain avec des films musicaux. Il y aura une concurrence entre deux grands chanteurs de la musique américaine, on verra ça dans quelques instants avec donc les avant-premières proposées au ciné Mazarin. Manuel va nous présenter un film qui sort cette semaine. Il va nous présenter une info aussi dans quelques instants avec bien l'actualité dramatique qui bouscule un petit peu tout Los Angeles et donc les Oscars. Et puis je vois qu'elle fait signe, qu'elle affirme un petit peu ce que je dis de l'autre côté. De l'autre côté de cette vitre, c'est Laetitia qui m'accompagne.
Salut,
salut Laetitia, ça va?
Bah ouais, ça va. Elle était très bien ta présentation. Je pouvais presque sentir le pop-corn, tu sais, dans la salle de ciné.
Effectivement, bah d'ailleurs toi tu vas manger certainement du pop-corn dans cette salle de ciné bientôt parce qu'il y a un film qui sort cette semaine,
ouais,
qui t'intéresse pas mal, hein.
Qui m'intéresse pas mal, on va en parler tout à l'heure.
Ouais, un film d'horreur,
le premier de l'année,
fantasy aussi un petit peu,
ouais,
qui peut rappeler les souvenirs de Twilight un peu, non?
Alors Twilight, alors moi si je t'avoue que les vampires à paillettes je suis pas fan.
D'accord.
Mais qui va plus donner des souvenirs à ceux qui ont vu des films comme Le Loup-garou de Londres par exemple.
Ah ouais, d'accord, ok, bon tu vas nous raconter ça,
ouais,
dans quelques instants. Juste avant, et bien c'est ce que je disais, on va prendre la direction des États-Unis avec l'actualité dramatique de Los Angeles. Manuel qui va nous parler d'une info, c'est le dîner des Oscars.
Respect et robustesse, Caius C+. Alors, les nouvelles sont bonnes?
Et oui, parce que conséquence de l'actualité, bien le dîner des Oscars a été annulé. Manuel nous explique pourquoi et comment ça va se passer.
Oui, Théo, en effet, l'Académie des Oscars a annoncé lundi l'annulation du traditionnel et fastueux déjeuner des nommés au moment où Los Angeles, berceau de l'industrie du cinéma américain, est toujours en proie à des incendies dévastateurs. Les nominations seront annoncées en ligne le 23 janvier par l'Académie des Arts et des Sciences du Cinéma qui décerne les précieuses statuettes. Le traditionnel déjeuner, initialement prévu à Beverly Hills le 10 février, a tout bonnement été annulé. Assiégé par les flammes depuis mardi dernier, Los Angeles continue de compter ses morts. Le bilan s'est alourdi dimanche soir. 24 personnes décédées selon les autorités. Environ 92 000 personnes sont toujours concernées par un ordre d'évacuation. Des célébrités comme Anthony Hopkins, Mel Gibson et Billy Crystal ont perdu leur maison dans les incendies. L'Académie des Oscars a toutefois annoncé lundi qu'elle maintenait au 2 mars sa soirée de gala au cours de laquelle seront décernées les récompenses. Nous sommes déterminés à utiliser cette opportunité pour célébrer notre industrie résiliente et compatissante, a d'ailleurs déclaré dans un communiqué l'Académie, et qui a d'ailleurs ajouté qu'elle entendait honorer les personnes qui ont aidé à lutter contre les incendies.
Ouais, d'ailleurs, les incendies de Los Angeles qui continuent, hein, de faire
des
ravages, ouais, bien sûr, et l'enquête sur l'origine des feux qui est en train de se poursuivre. On aura l'occasion d'en parler dans les actualités de 13h. Laetitia.
Oui, Théo.
Il y a un son dans ton ordinateur que je t'ai invité à rentrer tout
exactement
à l'heure. Je vais t'inviter à le diffuser, vas-y.
On est face à une situation qui relève de la loi de Murphy. Si quelque chose peut mal tourner...
Ne bouge pas.
Ça tournera mal.
Est-ce que tu reconnais cette voix, Letty?
Eh ben, on dirait que c'est la voix de Stallone, en fait.
Exactement, c'est ça, c'est la voix de Stallone. Alors, ça rejoint mon info et un petit peu aussi mon coup de gueule.
Je sens que tu vas nous parler d'intelligence artificielle.
Exactement, exactement. Pourquoi? Parce que le monde du doublage le redoutait. Et malheureusement, ouais, eh bien, c'est arrivé. Une société spécialisée dans l'IA, l'intelligence artificielle, et la famille du doubleur d'Alain Dorval, qui est décédé cette année, en 2024, l'année dernière, mais enfin il y a quelques mois maintenant, se sont mises d'accord pour recréer sa voix pour la version française du prochain film avec au casting Sylvester Stallone. Nous voulions faire quelque chose qui honore le savoir-faire et l'héritage de mon père. Ça, c'est ce qu'a expliqué la fille d'Alain Dorval. Est-ce que tu sais qui c'est, la fille d'Alain Dorval?
Eh bien non, je sais pas qui c'est.
Eh bien si, en fait tu sais qui c'est, mais tu ne le sais pas.
D'accord, je sais sans savoir.
Voilà, c'est ça. En fait, c'est Aurore Berger.
Ah mais elle était ministre.
Mais c'est l'actuelle ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations. Voilà.
Alors là, info du jour pour moi, je vais me coucher moins bête ce soir.
Et ouais, c'est la fille d'Alain Dorval et donc le film s'appelle Armor, c'est le nom du film qui sera diffusé sur Amazon Prime.
Ouais.
Ça va arriver courant mars, voilà, et donc ça fait évidemment débat dans le monde du doublage parce que peut-être qu'il y avait cette solution aussi de caster des nouvelles voix et de trouver une voix qui se référait à celle qu'avait Sylvester Stallone avant, à celle qui se référait à la voix d'Alain Dorval pour pouvoir avoir un nouvel emploi finalement pour un doubleur.
Alors moi ce que je trouverais intéressant c'est de demander aux principaux concernés par exemple de demander à Stallone,
Stallone,
ta voix française est malheureusement décédée, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il faut trouver une nouvelle voix
Mais d'autant plus que je crois que Sylvester Stallone était assez pote avec Alain Dorval en plus. Enfin, c'est pas. Je sais qu'ils se voyaient régulièrement quand ils venaient. Tu sais, il y a des voix françaises, elles connaissent même pas l'actrice qui double. Hein. Je sais que.
Tu sais, c'est comme le film Hollywood avec Florence Foresti.
Oui, voilà, exactement. Non, mais c'est ça. Oui, avec Jamel Debbouze et Florence Foresti. Non, mais ouais, c'est ça. Donc finalement, en soi, il y a pas. Là, il y avait vraiment une amitié qui les liait, si je me trompe pas. Donc c'est dommage, ouais, ce qui se passe là.
Et malheureusement, je pense qu'on va être confronté à ce cas-là de plus en plus parce qu'il y a beaucoup de grandes voix qui sont décédées ces derniers temps, des voix de doublage.
Oui.
Et voilà, c'est inquiétant.
Oui, c'est inquiétant. Et puis, c'est moins cher, donc forcément, voilà, les sociétés se plient à ça. Voilà, c'était ma petite info coup de gueule, Laetitia.
Et pendant ce temps-là, John Connor nous regarde.
Exactement, exactement. On va tout de suite passer, Laetitia, aux sorties ciné.
C'est pour le cinéma ou la télé?
Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran.
Je pense qu'il y a un pépin dans votre histoire.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
Et on commence ses sorties ciné, Letty, avec le film d'horreur épouvante, Fantasy, de cette semaine.
Ouais, il n'aura pas fallu attendre bien longtemps pour voir arriver le premier film d'horreur de cette année 2025. Il s'agit de Wolfman, qui sort, je vous le donne en mille, tout droit de chez qui? De chez Blumhouse Productions, la désormais usine à films d'horreur capable du meilleur comme du pire. Et avec Wolfman, c'est au mythe du loup-garou que s'attaque le film. Donc oui, effectivement, dans Twilight, il y a des loups-garous. Hein, je rejoins
c'est
ce
pour
que
ça que je disais
l'heure.
Ça. Ouais.
Et en fait, là, il s'agit d'un remake d'un classique d'horreur qui s'appelle Le Loup-Garou. C'est un film de George Wagner qui était sorti il y a bien longtemps, en 1941. D'ailleurs, puisqu'on est sur du remake, on peut se demander si Wolfman sera aussi réussi que le Nosferatu de Robert Eggers, qui est sorti le 25 décembre, qui a reçu un accueil extrêmement positif.
Avec Lily Rose Depp au casting.
Ouais, et voilà, c'est un très très bon film. Alors, malheureusement, j'ai pas encore pu le voir, mais j'en ai entendu que du bien. Bon, c'est pas gagné pour notre loup-garou. Alors, de quoi... On verra, après, peut-être je me trompe. De quoi ça parle, Wolfman? Eh bien, le pitch, il est assez simple. Alors que leur couple bat de l'aile, Blake et Charlotte, ils vont décider de se donner une nouvelle chance. Ils vont quitter San Francisco pour emménager dans l'Oregon, dans la maison d'enfance de Blake, qu'il a hérité de son père. Mais lorsque Blake, Charlotte et leur fille vont arriver de nuit près de la ferme, eh bien, ils vont être attaqués par une créature invisible qui vont prendre pour un animal sauvage. Et bien que Blake soit blessé, la petite famille finalement elle va parvenir à se barricader dans sa nouvelle demeure, sauf que au fil de la nuit, et bien Blake il va commencer à se métamorphoser en une horrible créature méconnaissable. Il devient un loup-garou dans d'annonce.
Allô, quelqu'un m'entend? Allô, on a eu un accident de la route.
Papa, on va mourir, c'est ça?
Non, je suis là pour vous protéger.
Et ensuite, on a été attaqué. Je pense que mon mari a une sorte d'infection. Blake? Blake?
Papa,
il a une maladie.
Il m'arrive quoi ?
comprends ce que je dis ? Blake, Blake, tu m'entends ? Tu me fais peur. Raquel ! Papa, arrêtez-moi ! Vite, maman, il arrive ! Oh, mais démarre !
Il y a toujours une voiture qui démarre pas dans un film d'horreur.
C'est vrai, mais
toujours,
c'est vrai.
Toujours.
C'est vrai, non mais vraiment, moi si un jour je devais changer de métier, je serais garagiste pour les films d'horreur.
Ah
vraiment,
oui, mais là, il y a du
dingue.
Boulot. Donc, réalisé par l'Australien Leigh Whannell, surtout connu pour avoir scénarisé des films de James Wan, comme une partie des Saw, comme Dead Silence, comme Insidious. Wolfman, c'est la quatrième réalisation du fameux Leigh Whannell, dont le dernier film en date, c'était Invisible Man. C'était en 2020, oui. C'est un film qui avait fait forte impression et qui partage un point commun avec Wolfman, puisque en fait, eh bien, tous les deux, ils font partie d'une série de remakes des fameux Universal Monsters. Alors,
ah,
c'est
oui.
quoi les Universal Monsters ? C'est des films d'horreur qui étaient produits par Universal Pictures entre les années 20 et les années 60. Alors, les films le plus connu de cette série, je pense qu'on peut dire que c'est Dracula avec Bela Lugosi et Frankenstein avec Boris Karloff. Donc voilà, cette fois-ci, c'est au loup-garou que s'attaque ce remake. Et Wolfman, c'est à voir dès aujourd'hui au cinéma Zarin.
Ouais, des premiers retours que j'ai vus, apparemment il y a un côté très Stephen King dans ce film.
Ouais, Stephen King avait fait un film, avait fait un livre, pardon, sur les loups-garous qui avait été adapté en film, ça s'appelle Peur Bleue.
Et puis apparemment c'est très très bien écrit.
Mais écoute, ce sentiment Stephen Kingien, je l'ai ressenti en regardant la bande-annonce.
Bon, et bien écoute, Letty, je t'inviterai à aller voir ce film, puis à nous donner tes impressions, retour très rapidement.
Ouais, ça marche.
Moi, il y a un film que je vais aller voir, ça c'est une évidence, je vais y aller très rapidement.
Je pense que je vais y aller aussi, celui-ci.
Ah, celui que je vais évoquer, là ?
Ben, si c'est celui que j'imagine, ouais.
Baby Girl.
Ouais.
Celui-là.
J'en ai entendu énormément de bien.
D'autant plus que j'ai été déçu par un film il n'y a pas longtemps, j'avais loupé Emmanuel 2. Non, c'est pas vraiment Emmanuel 2, c'est le remake
d'Emmanuel. Ouais.
Avec Noémie Merlant, j'étais assez déçu par ce film. Et donc, ce film-là va peut-être me réconcilier avec le thriller érotique, on va dire. J'admets que j'ai pas été un... C'est pas que j'ai pas été un grand fan, mais j'ai pas non plus été chamboulé par les 50 nuances degrés à l'époque. On l'annonce comme le nouveau 50 nuances degrés.
Et puis Nicole Kidman, quoi.
Exactement, Nicole Kidman, très étonnante dans ce film apparemment. Baby Girl, thriller érotique, donc réalisé par Alina Rain. Le film met en vedette donc Nicole Kidman, qui est dans le rôle de Romy Mathy. C'est une PDG d'entreprise technologique à New York, qui va entamer une liaison avec Samuel. C'est un jeune stagiaire, interprété par Harris Dickinson. Une relation qui explore des thèmes comme le pouvoir, la sexualité, à travers différentes choses, la domination et la soumission. Bande annonce, on en parle juste après.
Être PDG, c'est être à la fois une collaboratrice et une inspiration.
Tu dois pas partir au boulot ?
Ils attendent tous de me voir plier sous la pression.
Est-ce que vous avez un peu de temps ? Je vous présente les stagiaires.
Oui. Hey, comment vous avez fait pour calmer la chienne ?
Je lui ai donné un gâteau.
Vous en avez toujours sur vous ?
Pourquoi vous en voulez un ?
Qui m'a intégré au programme de mentorat ?
Vous avez 7 minutes.
Alors, comment ça a commencé ?
J'ai toujours eu
une énorme soif de pouvoir.
C'est comme ça que vous me voyez ?
Je crois que vous aimez qu'on vous dise quoi faire. Pardon, je suis désolé. C'était tellement déplacé.
Votre comportement est inacceptable.
Ah ouais ? Alors, si on continue, on va devoir établir des règles et y consentir tous les deux.
Qui a commandé ça ?
La première étant... Je te dis quoi faire et tu le fais.
Et si je refuse ?
Et toi, à genoux ?
Non, mais...
À genoux, maintenant ?
Non, mais je...
C'est pas ce que tu veux ?
Tu es très jeune, je veux pas te faire de mal.
Faire du mal, c'est moi qui ai l'ascendant sur toi. Je passe un coup de téléphone et tu perds tout. Ça t'excite quand je dis ça. Bonsoir, vous avez oublié votre ordi au bureau.
Maman, Marie peut venir dormir ?
J'étais pourtant convaincue que les femmes de pouvoir agiraient autrement.
Tu veux arrêter ?
T'as l'air libérée.
J'avais jamais rien vécu de comparable.
Gentille fille.
Romy est insatisfaite de sa vie sexuelle avec son mari qui s'appelle Jacob. Elle va se laisser séduire par Samuel qui inverse les rôles de pouvoir en devenant le partenaire dominant alors qu'il n'est que le simple stagiaire de son entreprise dont elle est la PDG. Une relation tumultueuse qui mettra en péril sa carrière et sa vie familiale, la confrontant à des dilemmes moraux et professionnels. Baby Girl, c'est un jeu de séduction endiablé, exaltant et inattendu qui a été très bien accueilli par la critique et notamment pour la performance, on en parlait, Letty, de Nicole Kidman. Kidman. Nouveau truc dur à dire. Nicole Kidman, film marquant de la 80e édition de la Mostra de Venise. Hein, d'ailleurs, Baby Girl, c'est dispo au ciné Mazarin. Je pense que je vais y aller parce que ouais, ce genre de film m'intrigue toujours un petit peu. Et j'aime bien quand il y a un côté aussi thriller derrière
et
tout ça.
Et elle est très douée hein, quand il s'agit de thriller érotique Nicole Kidman.
Ouais,
puisque la semaine dernière, on l'a évoqué dans Eyes Wide Shut.
Exactement, Letty. C'est vrai que ça fait un petit peu référence à ton film du grenier de la semaine dernière. On va changer encore totalement de genre maintenant. Maintenant, il y a trois films vraiment totalement différents cette semaine qui vous sont proposés au cinéma Mazarin. Maintenant, on va aller direction Le Quatrième Mur, qui est un film dramatique inspiré du roman éponyme de Serge Chalandon. Un rêve utopique dans un pays brisé par le conflit. Et c'est Manuel qui nous parle de ce film.
Eh bien, mon cher Théo, nous plongeons dans un récit qui nous amène à suivre Georges, donc le personnage principal qui débarque au Liban en 1982. Nous sommes en pleine guerre civile pour tenir la promesse faite à un ami, c'est-à-dire mettre en scène Antigone, le classique d'Anouilh avec des acteurs issus de toutes les communautés et avec ce symbole, c'est-à-dire arrêter la guerre pendant 2 heures. Voilà le défi. Mais le conflit remet en question l'implication de ses comédiens et alors que Georges tombe amoureux d'Iman, son interprète principal, la situation va devenir extrêmement compliquée pour ne pas dire explosive.
Tu vas pouvoir m'emmener partout ?
Je suis payé pour ça.
Ça y est, on est passé.
Baisse la tête !
George, lève-toi, allez.
C'est la première fois à Beyrouth, n'est-ce pas ?
Ouais.
Hey, voilà.
Vous venez pour le théâtre ?
Toutes les communautés sont partantes.
Français, French.
Maronites, chiites, druzes, palestiniens.
Je n'y comprends rien, moi, cette guerre. J'ai jamais foutu les pieds au Liban.
Ça va être très bien.
Merci.
Quand tu arrives dans un camp, tous les autres sont des ennemis. Tu comprends ça ?
Ouais.
Il y a un petit problème. L'acteur chrétien, il ne peut pas passer la ligne de démarcation. Il faut que cette pièce existe. Il faut qu'on existe.
Tu comprends qui dans cette guerre ?
Je suis pas pour la guerre, je suis là pour la paix.
Tu poses aucune question, tu ne regardes pas dans les yeux. Tu es impur. Jouer un rôle, c'est lié au péché, c'est haram.
Ici, on manque de tout. Je ne comprends pas ce que vous venez faire avec le théâtre, là, maintenant, dans notre pays.
On va la monter, cette pièce, un jour.
Ici, c'est le front entre l'Orient et l'Occident. On est aux premières lignes.
Des acteurs, ce sont des soldats. Toi, tu l'oublies peut-être, mais la guerre, elle n'oublie pas.
Tu vas arrêter la guerre pendant 2 heures ? Et tu sais qu'est-ce que c'est, la guerre ?
Tu dois fuir, Georges.
Sors !
Maintenant, tu sais pourquoi tu es venu.
Le film est adapté du roman de Serge Chalandon, qui avait obtenu le prix Goncourt des lycéens en 2013. Et Le Quatrième Mur raconte avec beaucoup de finesse, beaucoup de subtilité, la totale absurdité de cette situation. C'est vraiment le Liban qui tire sur le Liban, répond d'ailleurs l'un des personnages pour éclairer Georges, qui ne comprend absolument rien au conflit, aux forces en présence, à cette espèce de chaos permanent. Il parle aussi du rôle de l'art dans la promotion de la paix et de la fraternité pour les thèmes qui sont développés. C'est très bien réalisée. C'est voilà, une intrigue qu'on suit vraiment de manière haletante. Interprétation tout à fait remarquable, et Laurent Lafitte, bien sûr, en tête. Il est vraiment parfait dans ce personnage, qui aurait pu être un petit peu borderline quand même, voilà, qui aurait pu être agaçant, parce que voilà, c'est le héros, il essaie de bien faire dans toutes les circonstances. Et puis il y a des scènes marquantes, des scènes coup de poing, en particulier celle où Georges va découvrir les massacres dans les camps palestiniens de Sabra et Shatila, et puis aussi une autre vraiment très très rude, très saignante, où ses amis vont se venger de manière implacable d'un ennemi. Voilà un film choc à ne pas rater que ce quatrième mur.
Et ce quatrième mur qui montre cette fragilité de la paix, hein, les effets dévastateurs de la guerre et le rôle de l'art comme moyen de résistance et de dialogue, c'est une réflexion sur l'engagement, sur les sacrifices et les limites des idéaux face à la barbarie. Et après Profession du Père, qui était adapté par Jean-Pierre Améris en 2020, eh bien le quatrième mur, c'est le deuxième roman de Sorge Chalandon, reporter de guerre et romancier multiprimé, qui a été porté à l'écran. Laurent Lafitte, inattendu dans ce rôle, comme vous l'a dit Manuel, le quatrième mur, c'est dispo au ciné Mazarin. On va d'ailleurs faire maintenant un petit tour du côté des avant-premières proposées par votre ciné Mazarin à partir donc d'aujourd'hui jusqu'à mercredi prochain. Et il y a beaucoup d'avant-premières. Quand vous allez dans l'onglet événements avant-premières sur le site ou l'application ciné Mazarin, vous allez voir énormément de choses. Alors on va pas développer tout ce qu'il y a à retrouver, on va pas développer parce que ce n'est pas encore tant les Baudins qui seront d'ailleurs présents au ciné
Mazarin. Et qui je pense vont avoir du succès. Hein.
Mais bien évidemment que ça va avoir du succès, donc ça c'est le jeudi 20 février, c'est à 19h en présence de l'équipe. Et d'ailleurs il reste que 9 places, donc tu vois, c'est à dire Laetitia, comme ça fonctionne très bien avec donc les acteurs qui seront présents, ceux qui jouent Maria
et Christian
Baudin, c'est exactement, merci Laetitia, très très au courant.
Pourtant je suis pas si fan que ça des Baudins.
Ouais, mais c'est vrai, non, mais ça...
bon, c'est très ancré dans notre territoire
et ça fait partie de la culture populaire.
Ouais,
on voit les Baudins. Il y a les Tuches aussi bien sûr qui seront projetés en avant-première, nouvel opus des Tuches qui partent en Angleterre. Alors ça ce sera le 2 février, c'est très bientôt, à 16h30 d'ailleurs, dimanche 2 février à 16h30. Et puis donc dans le restant de l'actualité des avant-premières, là on va évoquer, il y a deux films musicaux. On va commencer avec Un parfait inconnu, film biographique réalisé par James Mangold qui retrace l'ascension de Bob Dylan interprété par Timothée Chalamet dans la scène musicale new-yorkaise des années 60. Il est originaire du Minnesota, le jeune Dylan arrive à New York à l'âge de 19 ans et il importe avec lui un talent exceptionnel qui transformera la musique américaine. Ça je ne l'invente pas, vous le savez déjà. Refusant d'être catalogué, il fait un choix controversé en adoptant des instruments électriques, une décision qui aura des répercussions mondiales. Écoutez.
Il paraît que Bob joue de l'électrique.
Pas sur notre scène en tout cas.
Ils veulent que je sente Blowing in the Wind jusqu'à la fin de ma putain de vie.
J'en connais un paquet qui vont pas aimer.
T'as débarqué ici avec rien d'autre qu'une guitare. Tu parles jamais de ta famille, de ton passé.
Les gens s'inventent leur passé. Sylvie, ils se rappellent ce qu'ils veulent et ils oublient le reste.
Je veux savoir dans quel camp il est.
Je suis pas sûr qu'il veuille entendre ce que j'ai envie de jouer, Johnny.
Moi, je veux l'entendre.
Laisse-moi ça!
Monte à fond! Fais du bruit, Bobby.
Chanson interprétée par Timothée Chalamet lui-même, il a appris à chanter comme Bob Dylan. C'est assez dingue, ça montre aussi l'investissement certains acteurs pour jouer des biopics. Ouais, c'est vrai que j'aime beaucoup aussi Timothée Chalamet. C'est le film événement de ce début d'année, film musical qui sera en avant-première, donc ce sera dimanche à 16h45 au ciné Mazarin. À moins que le film musical événement de cette année, ce soit plutôt celui-là.
Je suis Robbie Williams. Je suis une des plus grandes pop stars du monde. Voici mon histoire. Mais je vais pas la raconter d'une façon ordinaire, parce que je me vois pas comme les autres me voient.
Pendant 2 heures, vous êtes tous à moi!
Faut dire que j'ai toujours été un peu moins évolué. Alors on reprend du début, d'accord ? Mon père n'en avait que pour les stars de l'époque.
Ce truc, c'est inné. Si t'es pas né avec, c'est que t'es un moins que rien.
Je veux pas être un moins que rien.
Tu es bien comme tu es.
T'as été pris. Tu fais partie du groupe.
Putain, je vais être célèbre.
Ferme-la, connard.
Oh, va te faire foutre, Glenn.
Maman.
Regardez autour de cette table. Dans 5 ans, je vous garantis qu'on va tous se détester. Mais on sera riches.
Je ressemble à une pop star pour toi ?
Trésor, tu es parfait, ne change rien.
Je veux prouver que je peux y arriver seul.
Prouver à qui ?
Tout le monde.
Une chanson n'a de la valeur que si elle te coûte.
Si vous riez, faites-le intérieurement, d'accord ? J'en ai rien à foutre de leur avis !
Oh, si tu te soucies de la vie de tout le monde.
N'oublie jamais, je crois en toi.
Donc, l'histoire commence.
L'histoire commence avec Better Man, s'est inspiré de la vie de Robbie Williams, un film qui explore les hauts et les bas de sa carrière musicale, son ascension fulgurante et la célébrité en tant que membre du groupe. Letty, est-ce que tu te rappelles du nom de son
Texat.
Groupe Texat, exactement. Et son succès en tant qu'artiste solo,
solo
bien évidemment.
Moi, je retiens aussi. Surtout ça, parce que la période oui. Texat, ouais, c'était les boys band et tout, mais c'est plutôt après. Et c'est, il est un peu particulier, ce film-là. Hein.
Ouais, c'est ça, ouais, on va y venir, bien évidemment. Le récit met en lumière les défis personnels de Robbie Williams, y compris ses luttes contre l'addiction, l'anxiété, la pression de la vie sous les projecteurs aussi, bien sûr, cette célébrité, drame, humour, émotion. Better Man propose une immersion dans la vie complexe et fascinante de Robbie Williams et célèbre son impact quand même qu'il a eu aussi, parce que c'est vrai qu'on a l'image de Robbie Williams un petit peu déluré, mais il a eu un vrai impact sur l'industrie musicale et sur ses fans. Le réalisateur, c'est le même que Greatest Showman, qui avait cartonné à l'époque.
Alors, Greatest Showman, c'était...
C'est un film qui avait cartonné à l'époque.
D'accord.
Voilà. Je te mets à l'époque.
Écoute, comme tu peux t'apercevoir, je ne l'ai pas vu.
Et ce réalisateur propose une vision intéressante à travers ce biopic parce que, en fait, Robbie Williams, il est représenté sous la forme d'un chimpanzé. Deux raisons. D'une part, dès l'enfance, il se sent différent des autres. Il se sent monstrueux. Ça, vous l'avez entendu dans la bande-annonce. Et puis, d'autre part, il croit que son développement mental s'est arrêté au moment où il est devenu célèbre, c'est-à-dire à l'âge de 15 ans, avec le groupe donc Texat. Voilà, la suite de l'histoire, elle est à découvrir à travers Better Man. Le film, il sort mercredi prochain et l'avant-première, c'est mardi à 20h. Et j'y serai.
Oui, car tu es fan de biopics.
Ouais, j'adore les biopics musicaux et j'y serai avec notre cher et tendre ami Manuel. Voilà.
Salut Manuel.
Mais d'ailleurs, ce film qui démarre très très mal aux États-Unis.
Ouais, j'ai vu qu'il était parti pour être le premier flop de 2025.
Exactement, mais alors ça, c'est assez dingue parce que... je sais pas, j'ai pas encore vu les critiques presse en France, moi je l'ai pas encore vu ce film, donc je vais pas donner mon avis.
Alors que d'un autre côté, j'ai lu une critique qui l'annonçait encore meilleur que Bohemian Rhapsody.
Oui, exactement, mais voilà, mais j'ai lu exactement la même chose que toi, Letty. Non mais c'est vrai, et enfin moi j'ai l'impression, par la bande-annonce, que ce film, ça... Pour moi, il peut pas être un flop. Moi, j'ai l'impression qu'il est réussi, ce film. Après, faut voir ce que ça a donné par la suite, bien sûr. Et puis, je trouve que cette vision de Robbie Williams en chimpanzé, c'est gage de réussite déjà, parce que c'est assez étonnant. Et donc, je pense que ça va surprendre plus d'un, et donc marcher par cette surprise-là.
C'est après, le public qui tranchera, en fait. Hein.
Exactement. On aura l'occasion, bien sûr, d'en reparler, donc, mercredi prochain, au lendemain, de la vision que j'aurai eue l'occasion de voir. Exactement. Du côté des projections pour les plus jeunes, on retrouve bien sûr les premiers ciné avec une nouvelle programmation. Ça s'appelle Les Extraordinaires Aventures de Morph, programme de court-métrage dans l'univers espiègle de Morph. C'est un petit être malicieux fait de pâte à modeler. Il va partager ses aventures avec son meilleur ami Chasse et une joyeuse bande de compagnons dont la pétillante Delilah, le sage Grand Morph et toutes les petites créatures. Ils vivent ensemble dans un atelier d'artistes où chaque recoin du bureau devient le décor de situations étonnantes. Entre humour et surprise, leur aventure promettent des moments inoubliables dans un univers où tout peut arriver. Ça dure 40 minutes avec des projections les mercredis, il y en a une à 16h30 tout à l'heure, les samedis et les dimanches. Ça, c'est pour les tout petits. Et puis pour les un petit peu plus grands, voire les plus grands et les plus âgés, un rendez-vous au zoo pour une nuit assez mouvementée.
Ne manquez pas vos petits animaux de fer.
Chérie, j'ai dit on y va.
On est cerné par toutes sortes de créatures dangereuses.
Tu me lâches maintenant ?
T'en es sûr ?
Tôt ou tard, quelque chose d'affreux ou pire encore va arriver.
Je sais pas quoi, mais il y a un truc qui cloche.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'horrible nuit aux zoos.
Des monstres ont envahi les zoos.
Je prends les décisions. Vu que c'est moi qui ai le plus grand cerveau,
on va faire les choses à ma manière.
Vous êtes sérieux ?
À mon commandement. Ferme-la, pouilleux.
Il doit y avoir un moyen de sortir d'ici.
Le plus bas dans la chaîne alimentaire passe en premier. Toi, grand rongeur.
Arrêtez de m'appeler rongeur. Et si la solution, c'était d'agir ensemble ? Je me noie ! À l'aide !
Ensemble, on est plus fort. Ensemble, on ne peut pas perdre.
Un groupe d'animaux se transforme en zombies après que leur zoo ait été frappé par une météorite. Une nuit au zoo mouvementée, c'est en avant-première au cinéma Mazarin. Et ça, c'est dimanche matin à 10h30. On va terminer cette émission Letty avec le film du grenier, le film que tu sors de ton grenier. Tu profites d'ailleurs de l'actualité du Mazarin.
Oui, le film que j'ai descendu de mon grenier, il a probablement bercé l'enfance de certains d'entre vous. Et ce film, effectivement, vous pourrez le découvrir ou le redécouvrir demain soir sur grand écran au ciné Mazarin, à l'occasion d'une séance exceptionnelle organisée avec Les Sables de Nevers. Il s'agit du Grand Chemin de Jean-Loup Hubert, dans lequel le réalisateur nous raconte, en s'inspirant de sa propre enfance, comment un petit garçon va en quelque sorte le temps d'un été réparer un couple abîmé par la vie, porté brillamment par l'immense talent du duo formé par Anémone, qui signait là son premier grand rôle dramatique au cinéma, et par Richard Boringer. Le Grand Chemin mettait aussi à l'affiche deux tout jeunes comédiens. Il y avait Julien Hubert, le fils du réalisateur, et puis Vanessa Gedge, qui livraient tous les deux une prestation absolument incroyable pour leur début devant la caméra. Sorti en 1987, Le Grand Chemin sera un des gros succès cinématographiques de cette année, en amenant plus de 3 millions de spectateurs dans les salles obscures, et le film fait désormais partie des classiques du cinéma français que les générations successives continueront certainement longtemps à faire découvrir à leurs enfants. Alors, afin que vous soyez prêts pour la séance de demain au cinéma Mazarin, qui, je le précise, sera suivie d'une rencontre avec le réalisateur Jean-Loup Hubert et la comédienne Vanessa Gedge, eh bien aujourd'hui, on revient sur l'histoire de ce film formidable qu'est Le Grand Chemin. Mais juste avant, bande-annonce.
Le Grand Chemin !
Comme ça, tu vas habiter chez les Lucas.
Oh, juste pour les vacances.
Ça va pas l'air de t'emballer, hein?
Tout de même, ça me fait plaisir que tu me l'amènes. Tiens, regarde donc ta voisine qui vient fureter par là. Elle a jamais vu de petit parisien d'aussi près, tu comprends?
Tu veux que je te montre mon observatoire secret?
Où ça?
Viens voir. Marcel, le bonhomme!
Mais non, remets-toi. Oh. Il est pas bien fait, mais il va pas te manger quand même. Es-tu content de venir en vacances à Rouen? Alors ça, c'est pas sûr. Dis-moi donc quelque chose qui le requinque.
Quelle viande tu préfères, bonhomme ?
Le poisson.
Mieux, c'est quand il y a un enterrement. On est aux premières loges.
Du jour où t'as compris que ça t'achète, t'as tout fait pour l'éloigner de moi, cet enfant.
Ton
parle comme si t'étais sa mère.
Il est comment, Polo?
Il est menuisier.
Il est gentil?
Ça dépend.
Ah! Ah! Elle est ah! 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 Charité, qu'elle vient au secours du poivreau. Non, c'est parce qu'elle a honte. Elle a honte. Elle a honte, hein? Elle a honte. Et moi, j'ai pas honte.
Tu pleures?
Qu'est-ce que tu racontes? Je pleure pas, je mouche.
Avec le karaté, tu dégommes les chiottes de Marcel. D'une seule main, les doigts dans le nez.
Eh ben que je te vois seulement toucher au cabinet, hein. Ça sera peut-être pas du kataké, mais ça pourrait aussi bien te chauffer les fesses.
Allez, ôte-toi de là, sinon je t'enferme dedans.
C'est pas beau la cambrousse, vue du paradis?
Tu parlais de moi, Marcel? On dit que j'étais un vilain bonhomme?
Je sais pas.
Allez, viens.
On est pas mieux ici qu'à la messe?
Oui, mais on le voit mieux.
Été 1959, Louis, petit parisien de 9 ans, débarque dans la campagne nantaise. Sa mère, qui l'élève seule et qui est enceinte de son deuxième enfant, le confie à Marcel, une amie d'enfance qui est chargée de garder le petit garçon jusqu'à l'accouchement. Mais entre la séparation difficile avec sa mère et le débéissement brutal de Paris à la campagne, eh bien Louis fait triste mine à son arrivée. Et c'est pas la rencontre avec Pelot, le mari un petit peu rustre de Marcel, qui va arranger la situation. Heureusement, Louis pourra compter sur Martine, une petite voisine espiègle et délurée du même âge, qui va lui faire découvrir eh bien, tous les charmes de la vie à la campagne et qui va lui faire aussi faire les 400 coups. Et puis, outre cette amitié de vacances, Louis va petit à petit s'attacher fortement à Marcel et Pelot, un attachement qui va être réciproque pour ce couple déchiré par un lourd secret que Louis va bientôt découvrir en visitant le cimetière du village. D'ailleurs, l'arrivée du petit garçon dans leur vie sera synonyme de nouveau départ pour cet homme et cette femme en mal d'enfant. Entre la simplicité et la pureté d'une chronique d'enfance et cette réalité parfois violente d'une relation conjugale mise à mal par le deuil, Le Grand Chemin, c'est un film sincère et touchant qui n'a rien perdu de son charme, même 38 ans après sa sortie.
Et ce film d'ailleurs, Le Grand Chemin, c'est un chef-d'œuvre qui est né d'une déception.
Oui, effectivement, donc on est au milieu des années 80, et après avoir conquis le public avec sa comédie populaire La Smala, Jean-Louis Hubert, il va travailler dur sur un nouveau film qui doit s'intituler Sanguine. Mais malheureusement, le projet il va être abandonné 15 jours avant le début du tournage, et ça va laisser le jeune réalisateur totalement dépité. Du coup, pour se remettre un petit peu de cet échec, il va décider d'aller s'isoler à la campagne, dans le village de Rouence, c'est en Loire-Atlantique, et c'est là où il passait ses vacances quand il était enfant. Et ce séjour nostalgique, ça va lui redonner l'inspiration, puisque c'est en repensant à ses étés où il était petit garçon qu'il va se mettre à écrire le scénario du film Le Grand Chemin. Et c'est donc tout naturellement que, durant l'été 86, il va tourner son film entièrement en décor naturel dans la commune de Rouence, avec les habitants du village en guise de figurants. Et d'ailleurs, les Rouencais, ils gardent un excellent souvenir du tournage et des équipes, parce que tout le monde s'était parfaitement intégré à la vie du village. Et dans tout ça, ils ont quand même gardé un petit chouchou. Et c'est Richard Bohringer, parce que, pour sa gentillesse et sa simplicité. Et justement, pour avoir eu la chance de le rencontrer une fois, Richard Bohringer, à la Charité sur Loire, je comprends qu'ils aient été charmés par ce comédien qui est aussi abordable que sympathique.
Et ce film, César du meilleur acteur pour Richard Bohringer, César de la meilleure actrice pour Anémone, un immense succès, alors que pourtant l'accueil au début était mitigé.
Ouais, c'est vrai que la critique, elle va pas spécialement être tendre avec le film à sa sortie. Alors par exemple, on pourra lire dans Télérama que Le Grand Chemin est d'une mièvrerie confortable. Voilà, c'est pas très gentil, mais le public, lui, il sera conquis, puisque outre les 3 millions de spectateurs que j'ai annoncé tout à l'heure en salle, le film, il va connaître un immense succès en termes d'audience lors de sa première diffusion à la télévision le 21 mars 1989, réunissant plus de 13 millions de téléspectateurs, dont moi, je m'en souviens, c'était un mardi, je me souviens parfaitement, un mardi soir. Enfin, outre cette plaisanterie et outre ce succès auprès du public.
Combien de spectateurs ?
Il y en avait 13 millions.
Ah ouais, putain.
C'est impossible maintenant.
Ouais, c'est ça. À l'époque, c'était dingue, mais maintenant, ça paraît.
Non, maintenant, c'est.
Il n'y a que des matchs de foot qui font autant d'audience, mais c'est tout, quoi.
C'était vraiment un mardi soir en plus, donc je pense qu'il y avait les parents et les enfants qui regardaient. Moi, j'étais môme à l'époque. Hein. Et du coup, ouais, tu l'as dit, hein, outre ce succès public, il y a eu 6 nominations au César en 88. Donc tu l'as dit, hein, un pour Richard Bohringer, meilleur acteur, celui de la meilleure actrice pour Anémone. Et d'ailleurs, Anémone, elle manquera pas de se faire remarquer lors de la cérémonie en quittant la scène sans sa statuette.
Ah oui, oubliée.
Elle avait fait scandale.
Peut-être volontaire.
Ouais.
C'est un autre duo d'acteurs d'ailleurs qui devait incarner le couple au départ.
Ouais, et ça c'est l'actrice Vanessa Gage qui l'a révélé il y a quelques années. En fait, Marcel et Pelot, ils auraient dû être incarnés par Josiane Balasko et par Coluche.
D'accord.
Malheureusement, Coluche va décéder quelques temps avant le début du tournage, ce qui va obliger le réalisateur à revoir son casting. Et Bohringer, Balasko, ça collait pas vraiment, du coup ce sera Bohringer et Anémone.
Mais d'ailleurs, Balasko, Coluche, ça a de la gueule aussi. Hein. C'est clair. Et d'ailleurs, même Hollywood a été conquis par le grand chemin, c'est pour montrer le succès même mondial.
Ouais, alors ça on le sait un petit peu moins, mais il existe effectivement un remake américain du grand chemin. Le film il s'appelle Paradise, il est sorti en 1991 avec dans les rôles principaux Elijah Wood, donc j'imagine qu'il jouait le petit garçon, oui. Puisqu'il était tout jeune, hein, il n'avait pas encore joué dans Le Seigneur des Anneaux. Il y avait aussi Don Johnson et Melanie Griffith qui j'imagine reprenaient le rôle de Richard Bohringer et d'Anémone. Mais ne vous inquiétez pas, c'est bel et bien la version originale que vous pourrez voir demain soir au ciné Mazarin pour, je le rappelle, une séance rencontre exceptionnelle avec la présence du réalisateur Jean-Louis Hubert, avec aussi la comédienne Vanessa Gage, alors qui a bien grandi hein, depuis le film, parce qu'elle est toute gamine dans le Grand Chemin. Et puis Vanessa Gage, vous pourrez aussi la retrouver vendredi après-midi à la médiathèque Jean Jaurès, où elle répondra à toutes vos questions, ce sera à partir de 14h. Et puis enfin, si jamais vous ne pouvez pas vous rendre au ciné Mazarin ce jeudi soir, eh bien, hasard du calendrier, le film Le Grand Chemin, il a été diffusé lundi soir sur la chaîne TV5 Monde, et depuis, il est disponible gratuitement en streaming.
Ah, c'est bien ça.
Voilà, donc dépêchez-vous, hein, il est disponible jusqu'au 20 janvier, et puis sinon, dernière chance de se rattraper, il sera rediffusé sur cette même chaîne, donc TV5 Monde, le 27 janvier à 23h15.
En fait, là, il n'y a pas d'excuse pour ne pas voir
ou
revoir.
Tout le monde peut le voir
c'est très
ou
beau
le
film.
Revoir, et moi, je le revois à chaque fois avec plaisir.
Ça s'appelle Le Grand Chemin.
Le Grand Chemin, alors la projection au Mazarin, dernière précision, ce sera à 20h, ouais. Et c'est au prix de 6€.
Exactement, c'est ça, hein, proposé donc par les SAB, avec, tu le disais, la présence du réalisateur et donc de la actrice Vanessa Gage. Merci beaucoup.
Merci
Letty,
Théo.
Merci à toi. On se retrouve à 13h maintenant pour ta découverte musicale du jour. Bien évidemment, il y aura les infos juste avant et de nouvelles invités pour continuer de parler cinéma tout à l'heure.
Silence. Moteur.
Allons-y.
Le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs.
Vas-y, Jean-Pierre.
Moteur. Et action.